106.9 Mauricie, commentaire. Que la Mauricie se lève. Voici Maître François Vigean.
Salut François.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Tu penses que c'était pertinent de le dire? Qu'elle travaillait dans un CHSLD?
Ben, je sais pas ce que t'en penses.
Ben oui.
Ben, je sais pas, ça me semble que... Tu sais, moi, si j'ai, autres, j'ai un double emploi...
Nous autres, au bureau, on laisse même pas les gens aller aux États-Unis.
Ben, c'est parce que François, actuellement, tu sais, tout le monde se voit, puis avec raison, il y a des règles strictes. Tu sais, il me semble qu'actuellement, là, hey, en passant, gang, je travaille dans un CHSLD. Je dis ça de même, là. Mais bon, ça a l'air que c'est... Non, c'est pas important. OK. Bon.
Il est préposé ce matin?
Oui.
Allez, le gouvernement, dans un geste qui n'a pas beaucoup de précédent, honnêtement, là, a décidé de propulser les revenus des préposés en CHSLD. Ça
ouais.
va?
Mm-hmm.
Alors, les gens en ont entendu parler, hein? Alors, les personnes retenues, celles qui sont habiles à pouvoir postuler, bien, les conditions, c'est que vous devez être âgé de 18 ans, avoir terminé un secondaire 3 et ne pas avoir d'antécédent judiciaire. On vous demande d'être en bonne forme physique.
Mm-hmm.
Alors, il y a pas mal de monde, hein, qui se qualifie, et le dernier chiffre, c'est... Bruit de tambour, 72 170 personnes ont appliqué.
Ouais, ça par contre, je pense qu'il y a du dédoublement, là. Ça se peut-tu? Mais je pense qu'il y en a qui se sont peut-être inscrits 2-3 fois. Ça, en tout cas, on verra.
Ah oui? Hier,
Marguerite Blais, la ministre des Aînés, a laissé sous-entendre qu'il pourrait y avoir un peu de dédoublement. Alors, c'est ce qu'elle nous a dit.
Ah bon, OK.
Mais quand même, ça fait beaucoup de monde
par pareil. Région, par CIUS différent, ouais, j'imagine,
en fait, donne...
j'avoue que Marguerite Blais, je fais un effort pour pas l'écouter à tous les jours, là, mais
okay.
je peux comprendre là, ce que tu... là où tu t'en vas avec ça, c'est possible.
Je te donne un exemple. Okay? Moi, j'ai une amie actuellement qui a décidé de s'inscrire, mais au départ, elle a appelé dans un centre de formation professionnelle pour se manifester avant l'annonce officielle. Ils lui ont dit, ben là, oui, OK, on a votre inscription, mais aussi allez vous inscrire donc lorsque le gouvernement va l'annoncer sur le site officiel. Alors, est-ce qu'elle est comptabilisée 2 fois? Tu comprends?
Ah.
C'est un peu ça, mon point.
Oui, je comprends. Ça aurait pas de bon sens, ce que tu dis. Mais il y a un engouement.
Oui,
il y a un engouement. Alors, c'est à peu près 21 $ l'heure, mais avec toutes les primes, la prime COVID, la prime, etc., là, vous vous ramassez à 26. Et après ça, il y a une autre prime qui te mène à 29,50 si tu travailles pour toutes les parties de temps où tu travailles 4 semaines d'affilée à temps plein. Alors là, tu te ramasses à tout près de 34 $, 29,50.
Ouais.
Ça n'inclut pas les avantages sociaux. Évidemment, là, le syndicat, c'est légitime, là, ils ont trouvé une espèce de petit trou dans l'affaire, c'est qu'ils ont dit un instant, sur tout ce que vous nous payez en prime, vous ne le considérez pas dans le pourcentage de contribution au régime de retraite, auquel... ces employés-là vont contribuer uniquement à la hauteur de 21 $ l'heure parce que les primes ne sont pas considérées. Bon.
OK.
Mais je pense que ça ne reculera pas grand monde.
Non, je pense pas.
À 30 $ ça veut dire que les gens vont commencer et ils vont commencer à, selon un calcul rapide, là, aux alentours de 55 56 000 par année, plus les avantages sociaux, ça va être entre 65 et 70 000 sans le temps supplémentaire.
Ouais.
Bon. Ben là, hein? C'est ça. Alors moi, j'ai des amis qui travaillent en radiothérapie, hein, qui soignent des parents, des patients qui ont le cancer et qui étudient leur traitement, etc. Je ne donnerai pas leur salaire parce que c'est des gens que je connais, là, puis je ne commencerai pas à faire.
Ouais.
Bon, mais ils sont dans des chiffres semblables, là. OK, puis ils ont fait des études quand même... assez difficile. Alors, j'ai texté un de mes amis, j'ai dit, parce que là, leur convention vient échéance. Alors, j'ai dit, rien en bas de 100 000. Rien en bas de 100 000. Là. Je veux dire, c'est parce que c'est toute la structure qui est débalancée. Il faut bien comprendre ça.
Oui, ça, c'est certain.
Je veux dire, bon.
Mais sauf que, oui, François, je comprends, mais au départ, on est-tu d'accord que l'exemple que tu donnes, ces gens-là n'étaient pas sous-payés comparativement aux préposés aux bénéficiaires. Es-tu d'accord?
Comparé au... T'as raison, je te suis sur... Dans les limites de ta déclaration, oui, t'as raison. Okay. Il n'était pas sous-payé par rapport au préposé.
Voilà.
OK. OK. Ils étaient probablement sous-payés dans le système parce que malheureusement, ils sont obligés de négocier leur convention collective avec plein d'autres mondes qui n'ont rien à voir avec eux autres. Mais tu as raison. Mm-hmm. Quand tu dis que par rapport au préposé, ils n'étaient pas sous-payés. OK. Maintenant, j'ai plusieurs questions, moi, de ce qui va arriver. OK?
Ouais.
Puis, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont dans la résidence privée?
Oui, bien, là, c'est ça le problème. Le problème, il est là.
14 à 17 piastres de l'heure, c'est ça? À peu près?
Oui. Ben oui. Ben, François.
OK, alors si tu gagnes 15 piastres de l'heure, puis pour un travail comparable, l'autre en gagne 30, je sais pas. D'après toi, ça va-tu avoir un effet?
Ben, ça va avoir un
tu
effet.
Tu risques-tu de vider là? L'autre, ben, moi, je peux vous en parler, hein, parce que je pourrais vous parler de bien d'autres disciplines.
Oui.
Au gouvernement. OK? Dont les avocats, dont je vais me restreindre à ne pas en discuter, là. Mais les différences de conditions de travail entre le gouvernement et le privé sont tellement incroyables.
Oh oui,
totalement. Je veux dire, on n'est même pas dans la même galaxie.
Mais hier, je me suis demandé la question suivante, François, puis je la poserai à quelqu'un qui travaille, peut-être le président, M. Lemelin, à qui on a parlé des résidences, de l'Association des préposés aux bénéficiaires. Quelqu'un actuellement qui travaille au privé, là, dans une résidence, il entend ça. Y aurait-tu le droit de s'inscrire à la formation, bien qu'il l'a déjà? Peux-tu s'inscrire et dire, moi, je m'en vais travailler, je vais gagner plus cher? Y aurait-tu le droit de faire ça?
Ça, c'est une question magnifique que je me suis posée.
OK.
Comment est-il possible? Parce que, là, il faut ajouter quelque chose qu'on n'a pas parlé encore tous les deux. C'est que la formation est payée à 21 piastres de l'heure. Là.
Oui.
OK? Sur la base d'un revenu d'à peu près 40 000 pendant que tu es formé. Ça va? Oui. Alors moi, je me suis dit, écoutez, ils vont obliger le monde à travailler. Parce que, imagine ce qui risque d'arriver. Mm-hmm. Hein, les gens vont aller assister à la formation, vont pogner à paye, vont dire, pas sûr, ça me tente. Ben puis ils vont même être admissibles à l'assurance chômage.
Après ça, ben c'est
bon, tu comprends, ce petit bout-là marche pas complètement.
Non,
okay?
Non.
OK, bon. Ben là, le gouvernement a fait ce qu'ils peuvent. Ils ont dit, ben écoutez, on va compter sur l'honneur de ceux qui postulent, etc. Bon, puis moi, je fais confiance à Mme McCann, puis aux autres pour trouver une solution. Mais tu comprends le problème que ça va poser. Or, on revient à ta question. Comment pourrais-tu empêcher un travailleur qui a de l'expérience dans ce domaine-là de ne pas postuler sur un poste pour lequel il serait le candidat impeccable?
Tu peux pas l'empêcher, François. Moi, être cette personne-là, j'appliquerai. Puis je suis pas en train de dire que je ne veux pas vider les résidences privées, là, mais je me mets à leur place. Ben, ils sont pas plus niaiseux que les autres.
Hey, Catherine, ils n'ont pas de régime de retraite, ils n'ont pas d'avantages sociaux. Puis ils gagneraient la moitié. Pourquoi il ferait ça?
Ben non, ça ne fonctionne pas.
Bon, alors, ça va être intéressant à suivre. Ça, c'est comme la gomme sucrée sans sucre. Tu sauves une carie, tu meurs du cancer. Je veux dire,
hey François, me permets-tu d'aller ailleurs? Il y a un auditeur qui avait une question pour toi, mais c'est en lien avec ce qui se passe aux États-Unis.
Oui.
Ça concerne le policier Chauvin à Minneapolis. Mm-hmm. Et c'est un François qui est là. Bonjour François.
Bonjour Catherine.
Jean-François. Bonjour Jean-François, je m'excuse. Oui, ça va bien. François vous écoute.
Oui, parfait. François, salut, bon matin.
Bon matin.
Je voulais savoir, François, y a-t-il un délai raisonnable pour calculer un meurtre pour qu'il soit prémédité ou non? Parce que, tu sais, quand on regarde la vidéo qui dure plus de 10 minutes, on se rend compte que peut-être que le policier en question s'attendait pas à répondre à un appel de ce genre-là cette journée-là. Mais on s'entend que quelqu'un qui décide de spotter quelqu'un puis de dire, bon, ben moi, je règle son problème en ce moment. Est-ce qu'il y a un délai raisonnable pour dire, oui, c'est un meurtre prémédité? Parce que, selon moi, quand on regarde la vidéo, on voit que c'est un meurtre prémédité, tu sais.
Ouais.
François?
OK. Alors, merci l'intervenant. La question est super intéressante.
Absolument.
Alors, premièrement, il n'y a pas de temps prévu, ni dans la jurisprudence, ni dans la loi, OK? Mais la préméditation, le degré de préméditation que ça prend, ici, il ne pourrait pas être envisagé ni aux États-Unis ni au Canada parce que il ne sait. Ben là, il y a un petit élément supplémentaire qu'il faut dire qui pourrait être envisagé pour la préméditation, c'est que ces deux gens-là se connaissaient et avaient déjà été bouncers dans le même bar. Alors, est-ce que là, on pourrait dire, étant donné qu'il se connaissait, qu'il l'avait reconnu, qu'il avait l'intention avant de le tuer, ça prendrait une preuve, un enregistrement, une preuve de quelqu'un qui l'a entendu. Mais 10 minutes pour décider de tuer quelqu'un, ça peut pas être envisagé comme une préméditation. La préméditation, c'est quelque chose à quoi tu vas avoir le temps de réfléchir sur une certaine période. Il va avoir un plan et des préparatifs. OK? Ici, il n'y a pas tous ces éléments-là. Et il y aura un autre problème également. C'est celui de l'intention de tuer. D'ailleurs, ils l'ont pas accusé au deuxième degré. Hein? Ils l'ont accusé d'homicide involontaire. Parce qu'il y a un autre problème ici pour le meurtre au premier degré, c'est l'intention de tuer elle-même. Quand il y a la jambe avec le genou sur la gorge, je comprends que c'est incroyablement dangereux et c'est manifestement un geste criminel. Mais est-ce que, hors de tout doute raisonnable, un jury en arriverait à la conclusion qu'il souhaitait la mort de la personne? Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr qu'il souhaitait la mort de l'individu. Et je pense que ça serait très difficile d'en faire la preuve hors de tout doute.
Ouais. OK. Ça répond à votre question, Jean-François?
Oui, ça répond à la question. Juste un petit complément vite fait. Par contre, on le voit très bien sur la vidéo de 10 minutes. À partir de 8 minutes 30 environ, on le voit très bien que le gars, il répond plus, là, qu'il est plus là pendant tout. Puis il continue quand même avec personne de pression le coup. Là, tu sais, fait qu'on voit quand même que l'intention était là je crois. Ouais. Mais merci, François.
Ça me fait plaisir, mais... Votre opinion est pas plus folle que la mienne sur la question de l'intention de tuer. OK? La seule chose, et vous avez un élément, vous soulevez un élément bien important quand vous dites, quand il bouge plus puis il parle plus, peut-être qu'il est mort, là. OK? Et ça, c'est un élément qui joue pour vous. Moi, ce que je dis, c'est que le doute, comme on sait pas ce qu'il y a dans sa tête, le doute raisonnable risque, sur un deuxième degré, de le bénéficier. Et la preuve de ça, c'est que les trois autres agents seraient intervenus s'ils avaient cru qu'ils étaient décédés ou en train de décéder à ce moment-là. Parce que je crois pas ça que les quatre se sont ligués pour causer son décès. Je me rends pas à cette théorie du complot-là. Mais votre argument est pas mal bon.
OK. Merci, Jean-François.
Je vous remercie. Une bonne journée à vous deux. Là.
Merci. Merci François, très pertinent. D'ailleurs, je veux juste compléter, puis il y a Sylvie qui est là pour revenir sur les CHSLD puis les résidences privées. Parce que François, il faut préciser, là, la mort de George Floyd, elle est considérée maintenant comme un meurtre. Donc, il est passé, Chauvin, d'accusation d'homicide involontaire à une accusation de meurtre non prémédité. C'est bien ça?
Oui, exact. Alors, ça serait l'équivalent du deuxième degré ici.
Deuxième degré. Okay?
Moi, je pense qu'ils vont avoir bien de la misère.
Ah oui?
OK.
Bon, okay.
C'est pour... La seule raison pour laquelle ils ont augmenté l'acte d'accusation, là, c'est parce que les pressions de la famille, les pressions politiques et médiatiques est incroyable. Mais moi, je pense...
Faut qu'ils calment le jeu, là.
Exactement. Alors, okay. Deuxième degré, c'est que t'as pas planifié, mais tu savais que t'étais en train de tuer.
OK. Sylvie est en bout de ligne. Un petit commentaire. Bonjour, Sylvie.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. On vous écoute.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai travaillé comme préposé en CHSLD.
Oui.
Je suis maintenant auxiliaire en santé et services sociaux, le métier qui n'est pas connu.
Oui.
Et la différence souvent entre les CHSLD, les résidences gouvernementales et les autres, c'est que souvent les autres, les gens n'ont pas de cours. Ils ont un secouriste et un PDSP seulement. Ils n'ont pas de cours de préposé.
Ah, oui.
Fait que ça va être tentant pour eux autres d'aller suivre leur cours de préposé et avoir leur diplôme. Moi, je crois que ça va être dangereux pour les résidences qui ne sont pas gouvernementales.
Donc, vous me dites, Sylvie, si je comprends bien, la plupart de ceux et celles qui travaillent dans des résidences privées n'ont pas la formation de préposé aux bénéficiaires, c'est ça?
Non, c'est ça.
Non.
Souvent, ils ont un cours de PTSB et un cours de secourisme.
C'est quoi un cours de PTSP, Sylvie? C'est quoi le PTSP?
Le PTSP, c'est comment déplacer les patients, comment les lever, comment...
OK.
Là,
OK.
Nous, notre cours, parce que moi, j'ai le diplôme de préposé, mais aussi d'auxiliaire, auxiliaire santé et services sociaux, pas infirmière auxiliaire.
Oui.
Souvent, la différence, c'est que nous, on a tout un bagage qui dit, supposons une personne impoc, une personne qui fait de l'arthrose et de l'arthrite, quand tu vas donner de bain, l'eau ne se va pas pareil. Il y en a une qui est bien chaude, l'eau ne faut pas. Nous, on a une formation que si la personne est en problème respiratoire, On l'a tous eu, ça. Mais souvent, les autres résidences, c'est un cours de secouriste pour être capable de secourir la personne, okay. Et un cours de, justement de déplacement. Comment aider une personne, comment la tourner.
OK, bien, Sylvie, merci de l'information. Puis on posera les questions, mais je trouve ça intéressant ce que vous nous amenez. Merci, Sylvie.
Merci.
Merci, bye bye. Alors, tu vois, François, ça vient un peu compléter. Il y a beaucoup de questions à poser. Alors, de ce que je comprends, ce qui veut dire qu'on ne peut pas empêcher ces gens-là d'aller suivre la formation, surtout s'ils n'en avaient pas au départ,
entre ben, cette formation de préposé. Moi, je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas vu les conditions. Mais je ne vois pas qu'on serait mieux placé si on les empêcherait. Je veux dire, ça aurait comme pas de bon sens. Je ne sais même pas si ça serait légal de faire ça, OK?
Absolument.
Alors, on va voir les faits. Hey, salut,
bon
week-end.
Salut, bye. Papa, à lundi. François Vigeant, du lundi au jeudi, 7h15.